et que nous puissions aussi offrir notre écoute à Dieu, qui fait partie, je crois, de la louange, qui fait partie de l'attitude croyante, qu'on puisse offrir cette écoute à Dieu de cette parole que nous pouvons recevoir maintenant. Cette parole que nous venons de chanter, que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens que nous allons méditer ce matin, et ce verset qui nous guide dans tout ce que nous vivons ces premiers mois de l'année, de cette envie, cette volonté, cette identité d'être image de Dieu dans le monde. Nous tous qui, le visage dévoilé, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. On vient de le chanter, c'est une parole qui nous a été donnée il y a plus de 2000 ans. On la chante toujours avec la même force. C'est beau, hein? On se dit, elle n'a pas pris une seule ride, cette vocation-là de croyants, de chrétiens, qui sommes appelés, nous sommes appelés à porter cette image, à être transfigurés par le Seigneur en vue de cette gloire, en vue de cette gloire, de gloire en gloire, quelque chose de très dynamique. Et ce matin, on va, un peu comme l'image l'a suggéré tout à l'heure, comme l'image qui était sur le Frat News, je la trouvais très belle, cette image des enfants qui se tenaient un peu comme les équipes de foot au point de pénalty, pour se dire, on est tous ensemble, on croche pour aller dans cette même direction, de se soutenir, d'être image de Dieu dans le monde. Ce n'est pas si facile que ça, on l'a vu la dernière fois avec le culte radio, ce n'est pas une vocation qui nous est toujours donnée de vivre facilement dans le monde, mais je crois que si on peut se souvenir de cette image de la communauté, comme cette image des petits-enfants qui sont les uns avec les autres, comme l'équipe de foot qui fait tirer des pénaltys, ça va nous aider et nous donner une perspective. Parce que ce matin, on va vivre un temps particulier, c'est ce temps de prière communautaire, prière les uns pour les autres, et c'est dans ce sens-là que je vais axer cette méditation, c'est de se dire qu'on puisse essayer d'expérimenter avec qui nous sommes et dans la liberté, là où nous en sommes aussi, cette identité de croyants qui sommes tous ensemble. On n'est pas simplement des individus perdus chacun dans nos univers, mais vraiment qu'on puisse être tous ensemble, bras dessus, bras dessous, d'une certaine façon, unis dans la prière pour porter cette image de Dieu et vivre cette identité d'image de Dieu. Et puis effectivement, la communauté, c'est une palette variée de couleurs qui représente autant de personnes que nous sommes, qui sommes image de Dieu. Et puis quand on a pris pour la première fois cette thématique en janvier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Jean-Pierre qui nous a lu un poème qui était assez beau, qui s'appelait « Le vitrail de ma vie », et puis qui disait « Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler, avec les 365 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie. » Et puis ensuite, il décrit l'auteur les différentes couleurs, et puis il termine en disant « Seigneur, je te demande simplement d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et le feu de ton esprit. » Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à la fin du culte, il y a quelqu'un qui s'approche de nous, de Jean-Pierre, je ne sais plus, et puis qui dit, c'est vrai que cette vocation, cette identité d'être image de Dieu, si on est tout seul, on a un peu de la peine à l'imaginer s'exprimer complètement. Mais si on regarde l'ensemble de la communauté que nous formons, là, il y a peut-être quelque chose où on peut discerner l'image de Dieu. Parce qu'avec la richesse de chacune, chacun, la richesse de toutes ces facettes que nous représentons en tant qu'image de Dieu pris individuellement, c'est beaucoup plus qu'une somme des différentes personnes. Il y a une force de la communauté, il y a une force d'être tous ensemble, qui est démultiplié et puis qui démultiplie la vigueur et la force de cette image. Et puis je crois que c'était une belle direction que cette personne nous a donnée, de se dire que malgré tout ce qu'on peut vivre, je dirais la semaine, où on est dans une société qui est extrêmement atomisée, je ne vais pas faire une analyse sociologique là-dessus, de pouvoir se retrouver ensemble, le dimanche matin notamment, mais aussi à d'autres moments de la semaine, pour se dire qu'on est tous ensemble, pris en commun, cette image de Dieu dans le monde. Il y a une partie individuelle qui me concerne, mais il y a aussi une partie communautaire qui fait que l'ensemble de cette communauté peut représenter différentes facettes de ce que Dieu veut montrer au monde. Et c'est ce texte de 2 Corinthiens qu'on va méditer ce matin. J'ai mis en gras chaque fois que le pronom « nous » va apparaître. Puis vous verrez qu'il est à peu près tout le temps dans ce texte. Ça commence par « nous tous qui le visage dévoilé ». Ce n'est pas toi, chrétien, qui a le visage dévoilé, c'est « nous tous, le visage dévoilé, nous portons cette image ». Et puis on voit que ça continue. Je médite le texte de 2 Corinthiens 4, les versets 1 à 6. « Dès lors, puisque nous avons tous ensemble ce ministère, selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les secrets de la honte, ce qu'on a pu voir dimanche précédent. Nous ne nous comportons pas avec ruse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en rendant la vérité manifeste, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. » Cette dimension missionnaire. Si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. En effet, ce n'est pas sur nous-mêmes que porte notre proclamation. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous-mêmes sommes esclaves à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a brillé où ? Dans notre cœur, pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Je saute au verset 13. Et comme nous, de nouveau, on le partage, nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous pour que la grâce, en foisonnant, fasse abonder à la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Il est dense, hein, ce texte. Il est dense et je ne vais pas le commenter. Je vais vous le laisser simplement pour votre méditation dans cette semaine qui vient, peut-être même dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a toute une série de pistes d'action sur comment vivre cette vocation d'image de Dieu, avec des conséquences très pratiques, des conséquences très concrètes. Ce matin, on va parler que de ce pronom « nous ». Parce que ce n'est pas un exercice si facile que ça que de vivre la communauté. On est tous conscients de sa force, de sa solidarité, de sa prière commune. On se rend compte aussi qu'avec ces cultes de bénédiction, on ne se contente pas de placer ces éléments comme autant d'éléments un peu conceptuels ou théoriques. On a l'occasion de les vivre de manière très concrète, très pratique, en se plaçant les uns à côté des autres et en priant les uns pour les autres. On donne vraiment corps à ce « nous » dont parle l'apôtre Paul. On ne se contente pas d'en parler. Vous aurez et nous aurons dans quelques minutes l'instant l'occasion plutôt de passer des instants de prière et d'expérimenter en live, j'ai envie de dire, ce corps à corps que nous sommes appelés à vivre dans la communauté. On ne reste pas passif et on est encouragé à l'action. Et c'est là peut-être que les choses peuvent devenir un peu compliquées, parce que la prière, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui nous touche personnellement. Et puis celui ou celle qui est à côté de moi, c'est peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît très bien parce que c'est notre mari ou notre femme, mais c'est peut-être aussi quelqu'un que l'on voit pour la première fois parce que c'est la première fois qu'on est assise ou assis à côté d'elle ou de lui. Donc il y a une force, on la sent bien, mais il y a aussi une exigence parce qu'on ne maîtrise pas qui est notre frère ou notre sœur en Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais c'est une des grandes forces de l'Église, c'est qu'on ne maîtrise pas celui ou celle qui est à côté de nous. Puis dans le fond, c'est une super bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle, même si elle reste exigeante. Il y a tout un programme là derrière. Et vous savez pourquoi on ne maîtrise pas celui ou celle qui est à côté de nous ? Parce qu'on ne maîtrise pas qui est celui que Dieu ou celle que Dieu appelle. Il appelle de manière indéterminée. Il appelle de manière totale. Et celui qui répond ou celle qui répond, il y a toujours un mystère de la grâce. Pourquoi est-ce que cette parole de Dieu tout à coup a fait écho et a permis une réponse et, après une des conséquences logiques, une présence au sein de la communauté des croyants. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans qui nous échappe et qui nous dérange. Il faut bien le reconnaître. Alors, ce matin, je propose qu'on puisse arriver avec ce qui nous dérange, admettre ce qui nous échappe, que celui ou celle qui est à côté de nous, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé à être image de Dieu dans ce monde. Et celui ou celle qui est à côté de nous a besoin de se sentir encouragé comme ses enfants qui se tiennent bras dessous pour vivre cette identité au mieux. Parce qu'on le sait, ce n'est pas si évident que ça. Et là, le verset 4 de cet épître aux Corinthiens est très parlant. Puisqu'est-ce qu'il nous dit ? Si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, puis quand j'écoute les différents témoignages et quand je regarde ma propre réalité de témoin dans ce monde, je me rends compte que souvent elle est encore voilée, cette bonne nouvelle. Elle est voilée pour ceux qui voient leur perte, pour les gens sans foi dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde. Bon, je ne sais pas si je serais aussi craque que Paul, disons, mais toujours est-il qu'il parle de la puissance du Dieu de ce monde. Et puis, quand je nous encourage, en tant que pasteur, à être vraiment image de Dieu, à vivre cette dimension missionnaire de la foi, je ne nous encourage pas à une tâche qui est extrêmement facile. Parce qu'on se rend compte que les adversaires, et notamment le Dieu de ce monde, est puissant parce qu'il veut faire croire à nos contemporains, et souvent à nous, qu'on n'a pas besoin de lui. Qu'on peut très bien se débrouiller tout seul comme des grands, et puis que finalement, tant qu'il n'y a pas une grosse casse qui nous arrive de la vie, on n'a pas besoin de ce Seigneur, de ce Sauveur. Pourquoi on aurait besoin d'être sauvé si on n'a pas de quoi être sauvé ? Aucune raison d'aller vers un Sauveur si, voilà, il n'y a aucune raison d'être sauvé. J'ai besoin d'être sauvé quand je suis en train de me noyer puis qu'on me lance une bouée de secours, mais tant que je n'ai pas ce sentiment-là, ça ne me sert à rien. Et je crois que ça, c'est cette intelligence qui a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de dire qu'on n'a pas besoin de ce salut-là. Alors nous, quand je nous appelle à être image de Dieu et témoin, même de parler ensuite, parce que Paul insiste beaucoup sur le fait de parler, ça c'est le deuxième point qu'on me dit souvent, moi je n'ai pas besoin de parler, j'agis. Alors c'est juste, ouais, c'est très bien, mais Paul demande aussi de parler parfois, parce qu'on peut dire au nom de qui on agit. Et puis je vous laisse aussi ça comme ça, comme penser à méditer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les actes, mais il y a aussi simplement de dire, moi, je n'agis pas seulement de ma propre initiative, mais j'agis parce que j'ai une relation à mon Père, à Dieu. Il nous demande d'être actifs dans ce monde, et je crois vraiment qu'on a besoin de cette solidarité de la communauté pour, une fois qu'on quitte le seuil bienveillant de la frate, de se dire, je vais prendre avec moi cette identité, et puis peut-être même que je vais en parler. Ça pourrait arriver. Ce moment de prière communautaire, on le vit aussi au sein de notre culte. Et dimanche passé, on a eu un magnifique message qui nous a été transmis par Roger sur l'adoration. L'adoration de Dieu, l'adoration de celui qui nous a créés, comme un parfum, notre adoration qu'on fait monter vers lui, à l'image de ce qui se passait dans l'Ancien Testament avec le tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint et toutes ces dimensions-là. Et je crois que ce n'est pas innocent qu'avec le groupe Baraka, qui porte aussi ce ministère de prière les uns pour les autres, qu'on puisse le vivre au sein du culte. Parce que le culte, qui est ce lieu d'adoration envers Dieu, c'est quelque chose vraiment de gratuit, Il y a quelque chose du don dans notre louange, quelque chose qui sort de notre ordinaire, parce qu'on est là pour offrir comme un sacrifice de louange à quelqu'un qu'on ne voit pas, qui agit dans nos cœurs et qui souffle dans notre assemblée. Et puis cette adoration, on l'a déjà un peu expérimentée à travers ce temps de louange ce matin, on sent que ça, je ne sais pas, en tout cas moi, ça m'ouvre, ça m'étend, ça me pacifie aussi. Parce qu'on est en relation avec Dieu. Et le fait de vivre ce temps de prière les uns pour les autres, en même temps que cette dimension verticale de la foi chrétienne, de manière très horizontale et tout à coup très terre à terre, je pense que les deux vont assez bien ensemble. Cette ouverture des cœurs qu'on peut sentir de la louange, ce n'est pas qu'une ouverture verticale, je crois que c'est aussi une ouverture horizontale. Quand on étend nos cœurs, je pense qu'on étend aussi nos bras pour accueillir l'autre. Quand on étend nos cœurs dans cette dimension d'adoration, on ne la garde pas seulement pour nous, mais assez vite, on a l'impression que ça déborde, puis qu'on a envie de le partager les uns avec les autres. Et c'est en ce sens-là que je pense que l'adoration se vit pleinement. Et puis je pense qu'on va aussi vivre ce soir, à travers cette soirée de louange, ça va aussi dans ce sens-là, ce n'est pas adorer pour adorer, mais c'est adorer pour manifester notre amour à Dieu et dans le même temps, manifester notre amour pour le prochain. Dans la prière que Jésus nous a laissée, le Notre Père, on le prie de manière individuelle. On a une relation à Dieu qui est individuelle. Mais dans la prière qu'il nous a laissée, il met aussi, lui, en exergue ce nôtre. Ce fait que Dieu lui-même, l'objet de notre adoration, par définition la plus élémentaire, on le partage. Et on le partage avec celles et ceux qui sont à côté de nous. Alors ce matin, que nous puissions faire descendre cette réalité de la communauté, qu'on puisse faire descendre aussi notre réalité qui fait qu'on peut être dérangé par certains aspects de la communauté, parce que c'est exigeant, qu'on puisse se placer devant Dieu dans cette posture d'adorateur et être attentif à ce que les uns et les autres peuvent nous apporter, être attentif à ce que les uns et les autres peuvent nous donner, et aussi être attentif à ce que nous pouvons peut-être offrir à celle ou celui qui est à côté de moi. Parce que le but de cette phase pratique, c'est de nous encourager les uns les autres dans notre identité d'être image de Dieu dans le monde. Et puis, pour ce faire, je nous inviterai à suivre cette petite démarche qui est derrière moi. C'est d'abord de prendre un temps de silence personnel, puis de se placer devant Dieu dans une attitude d'adorateur. On a déjà pu le faire un peu à travers ce moment de louange, on a pu le faire à travers ce temps d'écoute de la parole. Et puis de se regrouper ensuite, soit à sa place, soit en naviguant. Vous verrez qu'on a une liberté totale de mouvement. Il y a aussi la possibilité de rester seul si ce matin, c'est too much, c'est un peu trop. Et puis on préfère rester seul, simplement l'indiquer par un geste de la main. Parce qu'effectivement, s'il y a une attitude communautaire qu'on aimerait aussi vivre à fond, c'est celle de la liberté, parce que si on sent forcé à faire quelque chose, c'est toujours un peu plus difficile de le faire avec cœur. Et ensuite, par petits groupes, 2, 3, 4, 5, 6, comme vous voulez, qu'on puisse prendre peut-être un moment de partage, puis si vous le désirez, que ce soit sur la semaine qui vient de s'écouler, sur peut-être cette réalité d'identité, d'être image de Dieu, est-ce que c'est plutôt facile, plutôt difficile, comment ça fait écho maintenant qu'on arrive à une certaine, entre guillemets, habitude d'écouter ce thème-là, qu'est-ce que ça fait écho, comment ça fait écho dans vos cœurs, comment est-ce peut-être vous le vivez. Et ensuite, prendre un temps pour se bénir les uns les autres dans cette identité et notre mission d'être image de Dieu dans le monde. Et à un moment donné, Claudia va reprendre le témoin de la présidence et puis nous allons pouvoir partager ce temps de Sainte-Cène que nous vivons chaque dimanche de manière un peu particulière, puisque nous allons vivre ce temps de cette scène dans les petits groupes de prière que nous avons formés aux quatre coins de la salle. Donc, ne vous souciez pas trop pour le moment des aspects pratiques. Claudia va vous expliquer. Ça reste assez simple parce qu'il y a toujours un gobelet de vin et un bout de pain. Donc, ne vous stressez pas. Profitez plutôt de ce moment de communion. Et puis, les aspects pratiques, si les chaises doivent bouger ou pas, vous faites comme vous voulez. On ne va pas se prendre la tête avec ça. Profitons plutôt de ce moment de communion les uns avec les autres et laissons les aspects et les soucis pratiques de côté. Je vous invite à la prière et ensuite, nous aurons ce temps de silence et ensuite, possibilité de se regrouper. Notre Père, merci parce que tu nous as donné l'Église, cette communauté vivante. Et merci parce que cette Église n'est pas seule à se débrouiller envers et contre tout, mais que tu as placé ton Fils lui-même à la tête. Merci Jésus-Christ parce que tu es non seulement notre ami, notre confident, notre sauveur, mais tu es aussi à la tête de notre communauté, à la tête de notre Église. Seigneur, fais-nous la grâce de vivre ces moments de communion maintenant. Fais-nous la grâce de vivre ces moments de communion les uns avec les autres, en toute liberté et selon le souffle de ton esprit. Bénis ces moments, bénis chacune, chacun qui compose ce matin cette communauté, et bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre pour différentes raisons. Seigneur, nous voulons élargir déjà notre pensée avec tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Bénis-nous et garde-nous pendant ce temps de partage. Amen.